Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spotzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 117, ici Richard Delhomme. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais souvent on entend dire le gravel, le bikepacking, ça me rappelle le développement du trail et de l'ultra-trail. Et généralement, on a le plus grand mal à avoir davantage de détails et d'arguments précis. Et puisque connaître le passé permet parfois d'imaginer le futur, ou au moins de ne pas refaire les mêmes erreurs, j'ai décidé d'aller fouiller dans l'histoire de l'ultra-trail. J'aurais pu interviewer plusieurs athlètes ou organisateurs pour tenter une synthèse. Mais j'ai la chance d'avoir rencontré récemment la personne qui est la synthèse. J'ai nommé Ludovic Collet, le speaker officiel de l'UTMB, la voix du trail depuis 20 ans. Ensemble, nous retraçons l'histoire, mais en se concentrant par exemple sur l'emprise fédérale, l'arrivée des marques et sponsors, la popularité grandissante de cette pratique et ses écueils, le dopage, la tricherie, tout y passe. Et en effet, les ressemblances sont troublantes. Je ne vous en dis pas plus, et sans plus attendre, donc, Ludovic Collet.
Allô?
Ludovic Collet, bonjour, Richard Delhomme, comment allez-vous?
Moi ça va bien, salut Richard, je crois qu'on peut, on peut se tutoyer. Hein.
Alors là par contre on va passer les mondanités parce qu'en fait là je dois avouer quand même publiquement qu'on avait parlé 5 minutes mais que j'avais oublié de lancer l'enregistrement, que j'avais parlé de mes exploits passés en course à pied, que j'avais bu le café chez toi et que j'avais déclaré publiquement que non, je n'ai pas pris le départ d'une de tes courses et que j'aime pas la course à pied. Et pour ceux qui veulent plus d'informations, envoyez-moi un message sur Instagram et voilà. Néanmoins, j'aimerais avant qu'on débute l'épisode remercier le podcast Ouf. Que j'utilise toujours quand je prépare un épisode avec un trailer ou quelqu'un impliqué dans le monde du trail. Ça a été le cas avec Joe Grant notamment. Et je voudrais les remercier pour la qualité de leur travail, pour la pertinence de leurs questions et pour la facilité avec laquelle ils me simplifient la tâche quand je prépare un épisode pour ne pas répéter ce qui a été fait et m'aider à trouver d'autres angles. Est-ce que tu as une opinion sur la question?
Aucunement. Non, c'est pas vrai. C'est des gens que j'apprécie, c'est ça. C'est un couple que j'apprécie énormément, Maud et Fred. On se connaît depuis longtemps maintenant. Plus Fred que Maud à l'époque. Elle était un peu plus timide et puis elle s'est mise un peu plus en avant grâce au podcast Ouf. Mais c'est vrai que Fred, hormis son podcast, il a toujours fait des recherches sur les grandes courses et en général, je m'appuie beaucoup sur ce qu'il écrit en avant-course pour préparer les miennes. Et puis je compare aussi avec ce que moi j'avais écrit, ce que j'ai préparé sur la course, si on pense que les favoris sont les mêmes. Enfin souvent on se retrouve avec Fred, c'est quelqu'un de très très sérieux, donc du coup je sais que j'ai pas besoin d'aller revérifier l'information, quoi. Ce qu'il a écrit ou ce qu'il a été recherché sur un athlète, il y a pas besoin de vérifier, c'est tout bon, quoi. Ça, c'est vraiment important.
Voilà. Ceci étant fait, tu vas maintenant pouvoir te présenter. Ludovic Collet, qui es-tu?
Ouh là là.
Ça, tu as 45 minutes devant toi.
Je suis un troubadour. Je suis speaker professionnel de métier depuis 20 ans maintenant. J'ai eu la chance par mon travail et par la passion de devenir la voix d'un sport, de la voix du trail et de l'ultra. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était un sport qui était encore dans l'anonymat et il y avait encore peu de speakers qui avaient envie de passer de très très longues heures et jour et nuit au micro. Donc du coup ce sport m'a beaucoup plu et puis je me suis lancé à fond dans ce sport-là.
T'as eu plusieurs vies quand même avant ça, parce que si j'ai bien compris, parce que j'ai eu mes sources, hein, j'ai eu un
ah
voisin
oui,
cet après-midi au téléphone, il m'a dit tu lui parleras de la kebabrie à Chamonix.
Ah bah oui, non mais j'ai été, bah déjà à la base, j'ai préparé deux brevets d'État, j'ai travaillé surtout avec un qui est le Bézan, j'étais maître nageur entraîneur, donc j'ai beaucoup entraîné le club de Chamonix. Puis il a fallu que je fasse vivre aussi mes enfants, et qu'à l'époque le club de Chamonix c'était plutôt en bénévolat, et le bénévolat me suit souvent en fait, mais bon c'est comme ça, souvent la passion, et voilà, après j'ai été papetier, j'ai tenu une papeterie, puis j'ai tenu un kebab, sandwich kebab, churros, panini, frites, pendant quelques années, et puis c'est là, en même temps que cette sandwicherie, j'ai commencé à me lancer au micro, et je pensais pas à cette époque-là que ça allait devenir mon principal métier, quoi.
Et est-ce que tu pensais, au-delà de ton travail, que cette pratique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant que je fasse ma fausse manip, qu'on parlait plutôt de course hors stade ou de marathon, de choses comme ça, ou de cross grande taille, est-ce que tu pensais que ça prendrait cette ampleur et que ça deviendrait cette sorte de mastodonte que c'est maintenant ?
Non, franchement, j'ai découvert des gens exceptionnels au début, beaucoup de passionnés de montagne, faut reconnaître, beaucoup de coureurs qui étaient déjà dans les montagnes en fait. Hein, j'avais très peu de Parisiens qui venaient courir, de Marseillais, de grandes villes. C'était hormis peut-être des coureurs de Lyon ou de Grenoble, mais sinon. C'était vraiment des gens du cru souvent. Et je pensais pas que ça prendrait cette ampleur, ça c'est sûr. Mais j'y prenais déjà beaucoup de plaisir, quoi.
Est-ce que tu pourrais me relater une brève histoire du trail et de l'ultra trail, disons, sur ces 20-30 dernières années ?
On était plutôt. Les courses s'appelaient plutôt des crosses. Le format marathon restait le format marathon. On en avait encore très peu en format marathon montagne, mais il y avait énormément de courses de montagne où ça existe toujours. Hein, les courses de montagne où il y a de vrais performeurs. Évidemment, le trail est passé devant la course de montagne et est devenu beaucoup plus médiatique. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui font les courses de montagne.
C'est quoi la différence ?
Des formats beaucoup plus courts.
Ouais,
c'est des formats plus courts avec pas de ravitaillement, des chemins plus directs. C'est souvent des gens qui venaient du cross, de la route et qui se sont spécialisés en montagne. Donc, qui avaient déjà un très gros cardio, qui couraient déjà très très vite et qui se sont améliorés en ascensionnel, en descente. Ouais, c'est des courses qui, il y a 20 ans, m'ont vraiment bluffé. Et les athlètes de maintenant sont toujours d'un très, très haut niveau. Et souvent, peut-être même d'un meilleur niveau que nos trailers ou ultra-trailers.
Bon, ça fera l'objet d'une longue discussion quand on se verra, parce que c'est hyper intéressant. Mais donc là, tu me parles de la France et on est obligé d'en parler, mais aux États-Unis, il se passait quoi dans les années 90 en fait ? Est-ce que c'était déjà une pratique qui existait, qui se pratiquait depuis longtemps, sur laquelle on n'avait pas encore mis un nom ? Ou ça a été plutôt une émergence spontanée ? Ça s'est passé comment ?
Je ne parlerai pas trop des États-Unis parce que j'y ai été moi pour des championnats du monde de ski, mais pour le trail, j'ai jamais trop eu l'occasion d'aller là-bas et je ne serais pas la personne la plus à même de parler des États-Unis. Par contre, en France, il y avait déjà des courses de trail qui commençaient à arriver il y a 20 ans. Et c'est vrai que c'est la création de l'ultra trail du Mont Blanc et la famille Poletti qui a fait que ce sport est devenu très très médiatique. Mais il y avait déjà d'autres courses avant. Le Tour du Mont Blanc existait, il existe avec les guides, mais il existait aussi en course par étapes. voilà, il y avait déjà des prémices de course, et puis pour moi, surtout là-bas, parce que quand j'ai commencé à l'animer, le trail, c'était ni plus ni moins que les guides, les accompagnateurs en montagne ou les randonneurs, hein, parce qu'il y a des randonneurs qui marchent très très vite, faisaient déjà depuis un moment. C'est juste on a organisé des courses, on a balisé des courses, on y a mis des chronomètres, du chronométrage pour voilà, et c'est devenu un sport plus codifié, mais ça existait depuis toujours.
Donc ça a aussi rajouté la notion d'autonomie ou de semi-autonomie, là où il y avait des guides, ça a aussi rajouté la notion de guidage éventuellement avec peut-être un balisage un peu plus minimaliste. C'est ça finalement qui a été rajouté, comme tu l'as dit, ça a été davantage codifié.
C'est ça, ça a été plus que codifié, et puis le fait de codifier un petit peu, et moi c'est ce qui me plaisait au début, c'est qu'on mettait pas une balise toutes les 50 mètres, on n'avait pas un ravitaillement tous les 4 kilomètres, il y avait un petit peu plus de notion d'engagement. Mais voilà, il y a pu avoir des problèmes sur des courses, et donc les préfets ont, avant de donner des autorisations de courses, ont durci la réglementation, et il a fallu qu'il y ait c'est de plus en plus de l'assistanat. C'est mon point de vue, mais je trouvais qu'on a de plus en plus aseptisé entre guillemets le trail en France.
Est-ce que sur ces premières courses, est-ce qu'il y avait un cadre fédéral, ou est-ce que c'était plutôt un rassemblement comme tu l'as dit, de montagnards ou de gens proches de la montagne, un petit peu finalement hors cadre légal et un petit peu hors course, hors stade?
Exactement, c'était exactement ça. Les courses de montagne étaient déjà à la FFA. Par contre, le trail n'avait pas de, il y a toujours pas de licence, mais on sait que depuis un moment maintenant, la Fédération française d'athlétisme essaye de trouver un moyen pour licencier tout le monde, ce qui leur permettrait de devenir très très gros. Ça serait un peu compliqué, mais c'est à la base ce qu'on a pu connaître dans le VTT. Hein. Dans le VTT, chacun allait faisait ses tours tout seul, et puis après on y a commencé à avoir des organisateurs qui ont organisé des courses, et puis ainsi de suite, et puis c'est devenu, et puis des championnats, et puis
voilà, la perspective des Jeux Olympiques, et puis faut mettre la fédération là-dedans, et puis voilà, maintenant c'est devenu une course sur une course de marche bien chiante à regarder. Voilà.
C'est ça, parce que il faut connaître les problèmes techniques qu'ont les caméramans à pouvoir tourner un sport, et donc du coup c'était plus facile de mettre une boucle, hein. Tu connais bien le vélo, donc c'était plus facile de mettre une boucle que tu fais 10 fois, où on peut mettre des caméras un peu partout, que d'avoir un très grand circuit sur une seule boucle, quoi.
Bah oui, c'était ça.
C'est bien dommage. C'est bien dommage.
Oui, c'est ce que tous les anciens, tu vois, j'ai fait un épisode avec Jean-Christophe Savignoni, et il me racontait qu'au début, le Roc d'Azur, c'était, tu larguais les mecs dans le massif de l'Esterel et c'était parti. Mais c'est infilmable. C'est pas avec ça qu'on fait un sport populaire, ou en tout cas télévisuel, qui ramène plein de sponsors et tout, ou qui va au jeu. Il faut plus que ça devienne un truc pour les hamsters. Bon.
Non, mais c'est vrai, donc du coup, on a l'impression d'être des vieux cons quand on parle d'il y a 20 ans, 15 ans, mais c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu moins aseptisé, et on avait des gens qui connaissaient vraiment la montagne. Or, le sport prenant de l'ampleur, il a fallu, comme il y a des personnes qui arrivaient de tous les horizons, il a fallu mettre des règles et aussi des codes vestimentaux, enfin il y avait de tout pour que il y ait le moins de soucis possible, parce que c'est vrai que même s'il y a des courses de trail partout en France, le trail s'est révélé surtout en ascensionnel et dans beaucoup d'endroits en montagne, quoi.
Donc si je reviens sur la création de l'UTMB, tu es en train de me dire que c'est donc le couple Poletti a créé ça hors fédération.
Exactement.
Et ça a pris combien de temps?
La première année, Ouais. Bah toi, la première année en 2003, ils l'avaient fait avec le club des sports de Chamonix. Ouais. Ils se sont rendus compte que bon, bah, voilà, ils auraient peut-être été un peu limités en restant dans le club des sports. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui s'était créé lors de cette course en 2003. Parce qu'il y a voilà 65 qui ont terminé seulement, ça a créé une
histoire. Sur combien ?
Ils étaient près de. J'hésite entre. J'étais un peu moins de 600, je crois. Peut-être 380, je sais plus. Enfin, mais il en restait pas beaucoup.
Ils n'étaient pas beaucoup à l'arrivée, en tout cas.
Et voilà. Et ça a créé le mythe. Ouais. Et assez vite, Catherine et Michel se sont structurés pour en faire ce que c'est devenu là, voilà, qui est le rassemblement des meilleurs au monde sur le Tour du Mont Blanc, avec cette fabuleuse idée à l'époque pour moi, qui était de pouvoir réunir trois pays, quoi, et 2000 bénévoles, voilà, en travaillant tous main dans la main avec l'Italie et la Suisse, le triangle d'or, quoi. Et qui, moi, m'a donné envie de l'animer les premières années. Moi, j'ai commencé en 2006, donc il y a eu trois éditions où moi, j'étais derrière pas la première édition, mais après, j'étais derrière les barrières, quoi. À voir les coureurs arriver.
Il a fallu combien de temps pour que la Fédé essaye de mettre le grappin là-dessus?
Ah, il aura fallu, je dirais, autour des années 2010.
Ouais.
2010, là, ils se sont dit, waouh, c'est en train de prendre, il y a forcément beaucoup de licenciés à faire. Et bon, voilà, pour l'instant, ils ont pas trouvé encore le moyen d'obliger tout le monde à être licencié, mais ça arrivera forcément un jour, je pense.
Ouais.
Mais ouais, il aura fallu quand même pas mal d'années, hein, je crois qu'après, avec les premiers champions du monde, c'est quoi, 2009, il me semble, 2008 ou 2009, en France, et donc voilà, c'est là où ça a démarré, hein, vraiment fort.
Est-ce que les coureurs historiques, entre guillemets, de l'UTMB, du trail, de l'ultra trail, ont été tentés justement par ce côté fédéral, par le côté un peu clinquant de l'équipe de France, etc. Ou est-ce que ça reste, même encore aujourd'hui, deux types de coureurs un petit peu différents, avec des profils différents, avec des esprits différents?
Ça reste des profils différents. Ouais. On n'a pas forcément tous les meilleurs qui puissent briller dans le monde en trail et en ultra ne viennent pas forcément en équipe, toi. Donc, ouais, ça c'est un sujet où il faudrait discuter avec ces élites, mais il y en a qui souhaitent pas forcément porter le maillot de l'équipe de France ou de se sentir imposé de faire des sélections dans telle ou telle course pour pouvoir se qualifier, pour pouvoir faire partie de l'équipe de France. Et d'autres qui courent après ça, au contraire, qui sont très très fiers de pouvoir aller faire ces championnats du monde. C'est moi pour c'est un des moments les plus forts de ma carrière là. J'ai eu la chance d'entraîner une athlète qui était franco-cambodgienne, j'en ai fait un film, et avec cette athlète on a réussi à monter une équipe, et j'ai pu être l'entraîneur de l'équipe du Cambodge au championnat du monde de trail. Et ça reste un moment, que ça soit de défiler avec ces franco-cambodgiens, et puis et de les voir tous arriver et de pouvoir classer le Cambodge dans le monde du trail, c'était quelque chose de très très fort.
Mais ça, on va en parler à la fin pour conclure justement, parce que je sais que c'est un sujet qui est hyper important pour toi et que ça va que ça va bien bien au-delà simplement du sport, et qu'il y a tout un tas de valeurs humaines qui sont regroupés là-dedans, et que bah, c'est très très fort pour toi. Et ça s'entend à ta voix d'ailleurs. Tu chevrotes un petit peu quand tu en parles.
C'est ça. Il y a beaucoup d'émotions.
Ouais. Ben, j'ai bien compris. Et même dans Ouf, ouais, quand tu en parlais, c'était plus le Ludo Collet qu'on avait entendu pendant une heure et quelques. entre guillemets, qui fanfaronnait et tout, à raconter des conneries. Et quand tu parles de ça, boum, rideau, on a l'impression que c'est assez... ça te porte littéralement. Mais on en parlera tout à l'heure. Comme ça, ça ouais, va inciter ça un petit peu les plaisir. Gens à écouter jusqu'au bout. Ils se diront, s'il y a un truc intéressant à retenir, c'est peut-être à la fin. Donc, on va essayer. tu l'as déjà un petit peu dévoilé, mais justement sur les premières épreuves, sur les, on parle pas que de l'UTMB, mais c'était plutôt donc des profils montagnards en fait, plutôt des profils un peu rustiques, qui savaient monter, mais aussi surtout qui savaient descendre et qui connaissaient les aléas de la montagne.
Et c'est ça, et qui savaient et qui partaient équipés et qui savaient quoi faire quand. Quand il y a un orage ou quand il y a des éclairs sur le parcours, quand il commence à se mettre à neiger, quand il fait froid, enfin voilà, ou quand il fait trop chaud, enfin voilà, on avait quand même des personnes qui étaient expérimentées en montagne.
Et à quel moment t'as senti que ça a commencé à dégénérer?
Après 2010. Après 2010, là, il y a eu ça a commencé à grossir, et on a commencé à avoir des coureurs de toute la France venir courir sur des courses. Alors, quand moi j'ai commencé à animer, il devait y avoir 300 courses en France, France et Dom Tom, hein, ouais. et maintenant je crois qu'on est à près de 3000. Ouais. Tu vois? Donc, c'est devenu, il y a des courses de trail. Partout, et dans tous les départements, et voilà. Et donc, du coup, on a des coureurs qui vont, qui peuvent courir en Ile-de-France, et puis qui rêvent de venir courir sur une course en montagne, et qui sont pas forcément, à l'époque, qui n'étaient pas forcément aguerris à tout ça, quoi. Et du coup, tellement que même il y a des fois des coureurs, je me demandais si avant de s'inscrire à des courses, s'ils avaient regardé le profil de la course, quoi. Parce que j'en ai vu tellement abandonner au 20e kilomètre, alors que c'était inscrit sur un 50 ou un 60, parce que ça montait fort, parce que voilà, ils n'avaient pas fait assez de dénivelé, quoi. Et du coup, c'était impossible pour eux de terminer.
Est-ce qu'il y a eu de la casse, justement? Est-ce qu'il y a eu des accidents marquants ou des abandons parce qu'on n'est pas bien préparé, c'est une chose. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment des accidents marquants ou qui ont marqué les esprits? Et là, vous
oui, bien sûr, il y a payé du jurisprudence.
Ah ouais.
Dans le Mercantour, on a un organisateur qui a été poursuivi parce qu'il y a eu 3 morts, qui a été poursuivi par la famille des personnes, et c'était des personnes, c'était des médecins, des gens qui avaient fait déjà énormément de trails dans leur vie, enfin, c'était pas des nouveau-nés. Et voilà, il a stoppé la course. Il a stoppé la course parce que le mauvais temps est arrivé très très vite, et eux n'ont pas réussi à se sortir malheureusement du mauvais temps, et ils ont été retrouvés morts. Et du coup, c'est vrai cet organisateur a pris de la prison. Donc ça a changé beaucoup de choses après au niveau normalement au niveau des préfets, mais au niveau des organisateurs, après beaucoup de d'organisateurs se sont couverts par rapport à ça, quoi.
Ouais. C'était en quelle année ça?
Je me rappelle pas de la date exacte. Dans le Mercantour,
attends, je vais chercher.
Ouais.
La science de la recherche Google. Mercantour Trail, 3 morts.
Ouais.
C'était en 2009.
Et voilà, tu vois, je t'ai dit 2009. Que, ouais.
Tu vois, là, ça fait 3 fois que ce soit la Fédé, le tournant et un autre truc, c'est 2009-2010. Et le tournant, ouais. Vraiment, on peut dire que le tournant, c'est quand même 2010. Là, ça fait 3 ouais. exemples frappants sur 3 secteurs différents d'une même épreuve ou d'une même pratique. Le tournant, c'est 2010 quand même.
Ouais.
Tout a basculé en 2010. Il aura fallu que 7 ans pour que 7 années pour faire exploser ouais. une pratique.
Tout à fait.
Est-ce que tu as entendu, tu as vu passer l'histoire sur le trail en Chine récemment?
Ouais, bien sûr.
Ouais,
c'est dramatique. Bah voilà, là, dramatique parce que les courses ont été prises par le mauvais temps, mais il n'y avait pas forcément de matériel obligatoire. Donc, je me rappelle des années difficiles à l'époque de Catherine et Michel Politi, qui ont quand même aidé énormément à ce que le trail et l'ultra trail en soient là maintenant. Mais à l'époque où ils ont commencé à imposer un peu du matériel obligatoire, ils se sont fait mais démonter sur les réseaux, parce que sur les réseaux, c'est toujours très facile. Du coup, on peut voir que déjà avant, ils étaient avant-gardistes et qu'ils avaient raison, quoi. Donc, c'est pas normal de perdre 21 personnes sur un événement sportif, c'est inadmissible. C'est inadmissible.
Donc, ça veut dire que la réglementation autour du matériel, c'était pas juste une histoire de marketing, on va dire, ou pour faire acheter
mais bien
du
matériel sûr que non.
Aux coureurs. C'était aussi et avant tout pour la sécurité.
Évidemment, les marques se sont engouffrées et c'est normal quand tu es une marque qui t'essaie de trouver tous les produits qui vont faire que les personnes viennent les acheter. Mais à la base, les organisateurs, Catherine et Michel, n'ont pas fait ça. Eux, ils n'ont rien touché sur toutes les ventes de Salomon ou d'autres, quoi. Tu vois, ils n'ont rien touché. Non, c'est juste parce que on se rendait compte qu'il y a des coureurs qui arrivaient en mode marathon, quoi, qui venait en short, t-shirt, quoi, et une banane, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ben non, vous vous rendez pas compte, c'est qu'on peut vous donner le départ et il fait soleil à Chamonix et puis t'arrives au col du Bonhomme, il neige, quoi. Même si t'es fin août et que en une heure tu peux avoir 10 cm de neige. Et que si t'as pas des affaires, ça passe pas, quoi. Ouais. Tu restes sur le carreau. Une hypothermie, on le voit en Chine, hein, ça a été très, très, très vite. Pour 20 minutes, 30 minutes, pour que les gens meurent. C'est fou, quoi.
Là, donc, tu me parlais de responsabilité, de jurisprudence de cet organisateur qui a été condamné. Mais j'ai entendu aussi pas mal de coureurs qui ont fait ces épreuves me dire... il y a du matériel obligatoire, faut repartir avec telle quantité d'eau, des ravitaux, mais il se reconnaîtra. Moi, quand je sortais du ravito, je vidais les gourdes, et un autre m'avait dit, discrètement, au ravito, mes parents me filaient un autre sac à dos, vachement plus léger, avec pas forcément le matériel obligatoire, mais beaucoup plus léger. Et dans ce cas-là, quand il y a un accident, plus pour le matériel obligatoire et que c'est avéré, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a eu des cas avec ça? Où les gars ne respectaient pas exactement la... Parce qu'encore l'hydratation, s'il neige, voilà, tu bois à la source. Mais dans le cas du matériel obligatoire, s'il y a un souci, ça se passe comment? Ou s'il y a eu un souci, comment ça s'est passé?
J'ai pas d'exemple où il y a eu des soucis, où ça s'est mal passé, tant mieux, mais il y a eu régulièrement des organisateurs qui organisent et qui font des contrôles sauvages. Ouais. Et j'ai vu des athlètes se faire disqualifier sur des courses où ils étaient en tête ou pas loin de la gagne parce qu'ils avaient joué à ce jeu-là, quoi. qui changeaient de ça, qui prenaient plus léger. Alors que, c'est pour moi, quand tu t'inscris, que tu sois d'accord ou pas, si tu t'inscris et que tu acceptes un règlement d'un organisateur, tu dois t'y tenir. Même si c'est stupide, même si c'est débile, même si on te demande... de mettre une veste dans ton sac et qui va faire 40 degrés pendant toute la journée. Mais tout le monde aura cette veste dans son sac. Donc le poids sera le même pour tout le monde. Donc voilà. Mais oui, il y en a toujours et de toute façon, ça fait partie de la nature humaine de tricher. Oui.
Donc, on va en parler tout à l'heure. Attends, j'ai tout un chapitre sur la triche. Attention, on va bien rigoler. Et, revenons aux marques, justement. Combien de temps il a fallu, et je te préviens que si tu me dis 2010, ça va chier, que les marques vraiment s'intéressent et comprennent l'émergence de cette pratique et se disent, tiens, il y a une manne, là, les mecs, faut qu'on y aille, quoi. Jean-Jacques, trouve-nous un nouveau sac à dos. Il a fallu combien de temps
2010.
Je te préviens. Je te préviens, le jour où je te croise à Chamonix, ça va saigner.
Non, mais je t'avais dit 2009. Non, mais il a fallu... Tu sais, Kylian gagne, on commence à parler de Kylian 2008-2009, c'est lui qui a fait exploser la mode, notamment chez Salomon, mais quand c'est un de mes amis qui l'avait recruté, et ben chez Salomon, personne ne voulait y croire, hein, à l'époque. Et quand il remporte voilà, à moins de 20 ans, il remporte l'UTMB, où là, on est en train de se dire, pendant deux ou trois années avant, c'est Marco Olmo, qui avait 55 ans, qui remporte, et que même les chercheurs nous avaient toujours dit qu'il fallait plutôt avoir de la bouteille, être plutôt âgé pour des courses aussi longues. Bah là, il mettait un pavé dans la mare et il a fait aussi avancer la science. Enfin, il y a plein de choses. Et là aussi, Salomon s'est dit, et là, il y a quelque chose à faire. Ouais. Il y a un engouement qui se crée autour. Il y a du matériel. Il y a, enfin voilà, il y a, là, on a un leader et les gens vont le suivre. Et c'est là qu'après, voilà, tout le monde s'y est mis. Hein.
Donc tu es en train de me dire que aujourd'hui on voit Salomon comme une marque super avant-gardiste machin, mais au début il n'y croyait pas.
Non, au début il croyait pas forcément en Kylian, que Kylian, ah oui. Kylian avait déjà gagné je pense qu'il y croyait, mais au sport c'est sûr, mais non, je parlais surtout de Kylian.
Ah oui, OK.
Je pensais, après assez rapidement ils se sont rendu compte que oui. Waouh, il y avait quelque chose à créer, hein, et Kylian a fait partie de ces personnes qui ont aidé à ce que Salomon se remette bien d'aplomb grâce au trail. Hein.
Ouais. Justement, comment a évolué, parce que j'en avais déjà parlé un petit peu avec Joe, justement, on avait parlé de Marc Olmo et de l'arrivée de Kylian, qui a baissé le temps, enfin qui a changé radicalement, qui a rebattu les cartes, si on peut dire. Quel était le profil des coureurs comme Marc Olmo, et après comment a évolué le profil justement des coureurs? On reviendra sur les marques après, mais là je fais la transition avec ce que tu racontais précédemment.
Ben là, on est, tu vois, Marc Olmo était plutôt comme un Marc Raquel. En athlétisme, comme Marc Raquel, sur 400 mètres, qui était capable de courir 4 fois 11 secondes et qui était souvent dernier au début et puis qui finissait premier ou deuxième d'une course parce que, en fait, lui ne ralentissait pas, ne désaccélérait pas, il restait une base qui était 11 secondes. Mais Marco Olmo aussi, lui, travaillait à courir très très longtemps sur un rythme à 8 ou 9 km heure, et il en dérogeait pas, quoi. Après, ça arrivait un petit peu, c'était complètement différent avec les trailers qui sont arrivés derrière, quoi. Notamment avec Kylian, et là on allait chercher plutôt un temps et avec des grosses variations de rythme.
Qu'est-ce qu'il a changé techniquement? Il allait plus vite en montée ou en descente?
Kylian, il avait tout, déjà, tout jeune. Il avait tout, il était déjà, lui qui avait commencé le ski de fond il y a très longtemps, avec un Français qui a pris sa retraite maintenant du côté de Font-Romeu et qui a été notre champion du monde, champion olympique de biathlon, Monsieur Fourcade. Déjà, ils étaient ensemble quand ils étaient tout jeunes. Et c'est marrant parce que les deux sont devenus d'énormes champions, chacun dans des sports différents. Mais quand il s'est mis au ski alpinisme, assez rapidement, on a pu voir que il avait des facilités, que génétiquement, il était déjà hors norme, quoi. Et donc, il a amené un autre système. Enfin voilà, il était tout jeune, il se prenait pas la tête. Tout le monde était déjà en train d'épier à l'époque comment il se nourrissait, alors qu'il était capable de manger 3 fraises tagada et une bouteille d'eau, et puis il avait quelques clubs sandwich, tu vois, et puis ça le permettait d'arriver au bout avec dans des temps assez fantastiques, quoi. Et voilà, mais c'est vrai que lui aussi, il jouait les premières années, il jouait un peu avec le matériel obligatoire. Ouais. Donc du coup, après après Kylian, après la victoire de Kylian, les règlements ont changé pour que tout le monde soit pareil, même équité.
Il me semble justement que Marc Olmo, à l'opposé, là tu parlais de Kylian qui faisait pas vraiment gaffe à ce qu'il mangeait. Il me semble que Marc Olmo, c'était plutôt un asset.
Ah oui, bien sûr, tout à fait. Il avait après, pour briller déjà au-dessus de 55 ans, gagner du TMB 3 fois, 2 fois, pardon, voilà, il fallait avoir un sacré, une sacrée ligne de vie, quoi. Tu vois, il fallait vraiment se tenir avec un entraînement hyper régulier, faire attention à ce qu'il mangeait et tout, quoi. C'est sûr, c'est sûr.
Alors justement, revenons sur les marques. Combien de temps il leur a fallu pour proposer du matériel vraiment adapté en termes de fonctionnalité, de poids, de compacité? Combien de temps il leur a fallu?
Je crois que c'était 2010.
Ah ouais.
Mais sinon, assez vite. Hein.
Ouais.
Assez vite, il y a eu beaucoup de boulot de fait. Très très rapidement.
Très très rapidement. Quand ils ont bien compris, ouais, en fait, ils ont bien compris, ouais, le truc quand même vite.
Bah oui, ouais, assez vite. Après, il a fallu travailler sur la légèreté, mais il y avait déjà, il y avait beaucoup de marques qui avaient déjà travaillé sur les alpinismes, les grands randonneurs, enfin tu vois, il y avait déjà aussi des produits adaptés à la montagne. Après, il a fallu surtout travailler sur le fait de rendre les choses un peu plus légères.
Et compactes aussi, peut-être.
Ouais, compact, respirant, enfin voilà, parce qu'après il y avait des... Mais assez vite, il y a eu énormément de nouveautés. Hein.
Donc du coup, ma question piège tombe un petit peu à l'eau. Est-ce que le matériel proposé était vraiment adapté à la pratique, ou est-ce que c'était pas un petit recyclage opportuniste de produits déjà existants avec notre ami Jean-Jacques du marketing? Hey, les mecs, il y a une nouvelle pratique qui arrive, on va ressortir le truc qui n'a pas marché l'année dernière et on remarquera il
depuis. Ah, ça c'est... Bah, si, forcément, les marques en ont fait, bien sûr.
Ah,
bien
ouf,
sûr, bien sûr.
Putain.
Bien sûr, hein, mais même à une époque où il y avait des personnes, enfin, tu vois, il y a eu des gâteaux sport, il y a des trucs qui étaient immangeables et dans le trail, c'est devenu mangeable, quoi, tu vois.
Les bars quand tu les as dans la poche arrière et qu'il fait 0 degré et que tu les prends, t'as l'impression que tu vas te péter les dents. Tu te dis, mais les mecs, est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous concevez quand même? Un instant, les gars, vous vous posez, vous réfléchissez à ça quand il fait froid, comment on fait? Et bon, là, du coup, je vais te le dire tout de suite, je vais répondre à la question. D'ailleurs, maintenant, à partir de maintenant, je vais faire l'interview tout seul. Donc, Richard Delhomme. À quel moment et sur quelle épreuve le virage commercial et l'explosion sont devenus flagrants? Eh ben alors, je pense que c'était plutôt autour de 2010. Par contre, je cale un petit peu sur l'épreuve et je vais appeler Ludovic Collet à la rescousse. Ludovic Collet, avez-vous la réponse? Sur quelle épreuve le virage commercial est devenu flagrant?
Sur l'UTMB, c'est clair. C'est clair, et que là, les marques se sont penchées à... Vu qu'on avait enfin un événement médiatique qui était diffusé dans le monde entier, c'est sûr que beaucoup ont créé des gammes, hein, des gammes pour être vues. Il y a beaucoup de teams se sont créés, donc du coup, toutes les marques pouvaient avoir chacun leur identité forte, quoi. Donc c'est arrivé quand même assez vite, hein, vraiment. Ils ont compris très très vite, beaucoup d'organisateurs ont commencé à faire, en plus de leurs courses, des salons, et du coup ça a permis de bien faire marcher le business. C'est sûr que c'est peut-être pas aussi cher qu'un vélo pour faire du triathlon. Mais quand même, quand tu t'achètes toute la panoplie, ça commence à faire un bon petit budget.
Ouais. Moi, je parle de déguisement des fois, plutôt quand tu veux acheter tout le déguisement.
C'est ça.
Ah, je me moque, putain.
Non, mais nous, on s'est tous moqués. Et pourtant, Dieu sait que j'aime ce sport. Hein, mais en habitant Chamonix, en voyant les gars arriver comme à la rentrée, quand on était gamin, on était habillés, et on avait notre sac tout neuf, et nos pompes toutes neuves, et nos fringues toutes neuves. Et ben là, quand je les vois arriver fin août, et qui les deux, trois premiers jours avant la course, ils sont en train de se balader avec leurs vêtements tout neufs, forcément, ça me fait rire.
C'est marrant parce que dans les années 90, on lisait les mêmes trucs sur, enfin même après un petit peu 2000, sur l'Ironman, où les mecs, tu vois, à Embrun, ils pavanaient 3 jours avant, ou à Nice, pendant 3 jours avant, ils pavanaient dans la trifonction, quasiment avec le dossard déjà accroché, et tu les voyais.
Ouais, c'est ça.
C'est marrant parce que tu vois, on change de pratique, on change de sport, mais finalement l'humain il change pas beaucoup quoi. Et quand il s'agit d'être un pimpin, il y a toujours du monde quoi.
C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Mais bon, après, ils font pas de mal non plus, hein, tu vois. Ça nous fait juste rire quoi.
Alors, ils font pas de mal, justement. Si on parlait des 10% de cons, les jamais contents, tu sais, avec le parcours qui était trop ci, pas assez ça. Il y avait trop de racines, il y avait trop de cailloux, c'était trop technique, c'était pas assez si, c'était pas dans
les... J'en ai vu un certain nombre, heureusement, comme tu dis, toi, c'est, je sais pas le nombre de pourcentage exact, mais c'est effectivement, évidemment, c'est pas la majorité, et tant mieux, mais on a une poignée, mais qui, pour moi, est, quand un sport devient très très populaire, et qu'on on retrouve tout le monde, mais on retrouve toutes les incivilités qu'on a dans la vie de tous les jours, tout simplement. Et là, on y a droit. Hein. Enfin, moi, j'ai vu des gens râler parce qu'il y avait de l'herbe dans leur soupe. Certains ont râlé parce que leurs chaussures toutes neuves étaient toutes sales, quoi. Enfin, tu vois, des fois. Enfin, après, il y a la fatigue des dents, la déception de ne pas avoir réussi ou pas, mais on cherche toujours un prétexte pour éviter de dire ah ben non j'étais pas assez préparé en fait c'est moi mais non ça on peut pas le dire donc j'en ai des gens j'ai même vu un coureur une fois et ça m'a sacrément énervé il a fallu que je me morde les lèvres parce que moi je suis pas l'organisateur, hein. Moi je suis un mercenaire, hein. On m'embauche pour venir animer, donc j'ai pas à dire ce que je pense, tu vois, ce qui est normal, c'est à l'organisateur, mais j'ai un de mes amis organisateurs qui organise une course, on sait qu'il va faire très mauvais, donc du coup on décide de raccourcir le 80 km, tout le monde part sur le 54 ou 58, et que le 58 qui partait à 10h du matin repart à 4h ou 5h du matin à la place du 80 pour être sûr que tout le monde soit rentré à l'heure. Ouais. Et ben donc tout le monde accepte, il prévient quelques jours avant, parce que la météo va être vraiment pourrie, tout, donc on a changé. Tout le monde prend le départ, et j'ai un coureur qui finit la course, il est heureux, il est finisher, il a son lot finisher, il a son repas de course, il a tout, et il commence à se mettre à tomber des cordes, comme il était prévu, quoi, tu vois. Et une autre course, un petit peu plus loin, qui a dû arrêter tout aussi très très vite, mais eux, ils avaient encore des coureurs sur le parcours. Mais là, le coureur, il vient me voir, il me dit, ouais, j'aimerais chercher l'organisateur, vous êtes pas l'organisateur. J'ai dit, non, moi, je suis au micro, mais souvent, c'est moi qu'on vient voir, de toute façon. Et il me dit, j'ai fait le 56, là, on avait prévu de faire le 80, je voudrais savoir si l'organisateur va me rembourser la différence. Et là, je me dis, je lui dis, mais tu as fait la course? Oui. Tu t'es fait plaisir? Oui. Tu as compris ce qui s'était passé? T'as vu ce qui est en train de tomber maintenant? Oui. Tu vois comment il s'est plié en quatre, et il y a eu tous les ravitaillements ont été là, il y a les bénévoles, tout le monde. Tu crois pas que t'en as eu pour ton argent? La course n'aura plus ne pas se faire, quoi. Donc, enfin, voilà, là, t'es plus dans mon monde, mec. T'as rien à faire dans ce sport-là, quoi. Si t'es là, pour récupérer 20 balles, alors que l'organisateur s'est démené, s'est plié en quatre pour remettre, enfin, voilà, des ravitaux à des heures qui n'étaient pas prévues parce qu'ils partent plus tôt, enfin, bon. Voilà. Ça, c'est les gens qui me tapent sur le système.
Plus que ceux qui demandent un t-shirt de finisher en ayant abandonné?
Ouais, c'est hors concours, c'est de la bêtise, hein. Comme je dis souvent, qu'est-ce que t'as pas compris dans le mot finisher, quoi? Si t'es pas finisher, t'as pas de t-shirt finisher. C'est normal. C'est juste, c'est pour celui qui a fait le parcours en entier. C'est normal que tu ne repartes pas avec un dossard finisher si tu n'as pas fini la course, quoi. Mais on en a, il y en a régulièrement, j'en ai sur des courses, qui viennent voir et dire, ouais, j'ai pas fini, mais il est quand même beau, j'aimerais bien avoir le t-shirt, le ramener à la maison. Ben non, mais il y a marqué finisher dessus, c'est pas possible, quoi.
Bah oui, pour aller à la salle de muscu après avec ton t-shirt finisher, ah j'en ai un beau, tiens, comme par hasard, c'est un triathlète. Il arrive, il pose son sac à dos Iron Man de Vichy à côté de la du banc pour les abdos. Il a sa casquette Iron Man, il fait que des abdos et puis de temps en temps un peu de biceps en se regardant devant la glace. Ah, celui-là, il est magnifique. T'as, c'est bizarre. Pourtant, je roule, hein. Mais je l'ai jamais croisé sur la route autour de la maison. Pourtant, la salle est à 4 km de chez moi, je l'ai jamais croisé. Mais je crois bien qu'il fait que des abdos, en fait.
Voilà, mais c'est ça. Bon, écoute. Mais après, comme ceux-là, ils nous agacent, mais ils font pas de mal, quoi. Enfin, toi, c'est pas.
Bah, ils font pas de mal. Tu vois, tout à l'heure, on parlait quand même des dommages collatéraux, des mecs qui arrivent pas très bien préparés. Ça peut quand même foutre une organisation en l'air, en ayant l'organisateur en prison. Ça met quand même tout le monde dans des situations inconfortables. Quand les Templiers ont été annulés il y a 2 ans, je crois. Je sais pas si t'as regardé les réactions sur les réseaux sociaux, mais c'était hallucinant quand même. Alors que les conditions annoncées étaient apocalyptiques, et il y en a qui comprenaient pas pourquoi la course était reportée. Mmh. Ils sont pas méchants, mais quand même, ils ont un petit pouvoir de nuisance quand même.
Non, c'est sûr, mais ça, c'est parce que ce sport qui est devenu très populaire maintenant, je le dis souvent, mais voilà, on a des cons chômeurs. Donc, alors qu'avant, on avait plus des passionnés.
Donc, mecs qui mais après, ça reste pour accrocher ça à leur petit palmarès.
Ouais, et puis parce que ils ont payé, donc tout leur est dû. C'est surtout ça. C'est ça, le consommateur, hein, celui qui vient râler, c'est parce que il a payé. Donc, comme il a payé, machin, et qu'il a payé cher, et qu'il s'est tout équipé, ça doit avoir lieu, coûte que coûte. Vous démerdez les organisateurs. Hein, vous démerdez. Moi, je m'en fous. J'ai payé, donc j'ai droit à un service.
J'ai une question à la con. Est-ce qu'on parlait d'esprit trail au début, d'esprit ultra trail ou peut-être d'esprit montagne éventuellement, mais est-ce qu'on parlait de ça? Et à quel moment ça s'est évanoui?
Mais après, on peut. Ça veut tout et rien dire, l'esprit trail, tu sais. Chacun a sa définition de l'esprit trail. Donc, voilà, moi, pour moi, ce sport, c'était l'esprit, c'était de pouvoir partir, t'as la possibilité de partir avec les meilleurs, tu es sur la même ligne, chacun fait avec son niveau, partage, discute avec les bénévoles, profite, arrive, reste jusqu'à la remise des prix tous ensemble, tu rigoles au repas d'après-course, enfin tu vois, l'échange. Mais bon, voilà, après ça c'est moi, pour moi c'est ce que représente l'esprit trail, mais on peut tout y mettre. Hein.
Donc on va faire un petit flashback en 2012 et je vais citer Catherine Poletti. Il ne faut pas être naïf et il faut rester lucide. Notre discipline, bien que basée sur des valeurs fortes liées à la nature, n'échappe pas au dopage. Ça, c'était en 2012. Si tu me parlais de l'usage massif de cocaïne dans l'ultra-trail.
Pour moi, tu veux dire pour tenir sur les lignes?
Non, les coureurs. Toi, on va en parler après. Non, mais j'avais souvent ça, tu sais. Enfin, tu t'en doutes, hein, que...
Sources de première main,
évidemment.
Évidemment que tu as des sources de première main. Mais écoute, je sais pas, il y a eu très peu de contrôles où on a pris des gens, tu vois. Donc souvent ça a été plus sur le PO que la cocaïne, quand ça a été avéré. Après, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même énormément de coureurs qui prennent des produits surtout pour masquer le mal, tu vois, et pour aller jusqu'au bout, et des analgésiques, enfin, et beaucoup d'autres choses. Et c'est ça qui est dramatique, tu vois, quasiment sur chaque grand raid de la Réunion, par la chaleur et par les gens qui s'automédicamentent, il y a au moins un coureur qui perd un rein chaque année. Tu vois, on n'en parle pas assez, mais oui, forcément, les gens se chargent, mais tu sais, ils ont pas fait de test dans les pissotières de courses de trail, mais ils l'ont fait au refuge du requin, pour ceux qui montaient au sommet du Mont Blanc, et ils ont dérivé les pissotières pour récupérer les urines. Là, ils ont flippé, hein. Il y a des trucs, c'est même pas dans le manuel, hein. Tout était au rouge vif, hein. Donc, c'est dans la nature des gens, malheureusement. Tu vois, juste pour pouvoir briller ou arriver au sommet ou finir une course, on prend des aides.
C'est lié, forcément, c'est lié à la difficulté de la pratique, que ce soit la difficulté physique, technique, mais aussi la fatigue, la lutte contre le sommeil avec les heures.
Aussi parce que t'as envie d'être finisher sur ces grandes courses. Tu sais, il y a 40 ans, non, 40 ans, je dirais, moi, il y a 30 ans, quand j'ai fait mon marathon, je me rappelle qu'à l'époque, on parlait pas de trail ou d'ultra trail, tu faisais un marathon, tu retournes au boulot la semaine d'après, hein, tu dis, waouh, t'as fait un marathon, c'est ouf, quoi, tu vois. Après, on a eu le triathlon et on a des XXL, et t'as fait un XXL, et après, c'est devenu pareil pour le trail et l'ultra, quoi. Tu rentrais au boulot, je viens de faire 170 bornes ce week-end. Ah, tu passais pour un warrior. Tu hein. Passes toujours, d'ailleurs.
Ben oui.
Donc, c'est pour les gens. Souvent, c'est souvent pour briller, hein, pour aller au bout. Mais tu te mets quand même ta vie et ta santé en danger, quoi. Après, chacun est libre de se regarder dans la glace, quoi.
Autre forme de tricherie qu'on voit largement, alors tout ce qui est, on en a parlé pour le, donc tout ce qui est antidouleur, stimulants divers, c'est déjà bien ancré dans nos pratiques. Bah, alors déjà à vélo, on n'en parle même pas. Les courses du dimanche, à quel que soit le niveau, c'est pas la peine d'en parler. Tout le monde le sait, ça fait partie du folklore. Sur les longues distances, on n'en parle pas, mais ça existe largement aussi. Autre point commun entre nos pratiques, c'est l'art subtil et méconnu de couper le parcours en train ou en voiture, ou d'avoir de l'assistance discrète sur le parcours.
Ouais. Ah ouais. Malheureusement, quand les gens sont prêts à tout, hein, pour gagner ou pour performer. Mais après, c'est vrai que grâce au logiciel, notamment de LiveTrail, c'est là les organisations qui utilisaient ce système, souvent mettre en défaut des coureurs qui avaient pris des voitures, quoi.
Ouais.
Ou qui étaient montés derrière une moto ou quoi, parce qu'ils avaient des cadences qui allaient quand même bien plus vite qu'un coureur, quoi.
Bah oui. C'est quand même assez rigolo, tu vois. Quand on parlait sur le marathon de Paris, des gars qui coupaient en métro et tout. Bon, ça faisait un peu folklorique. Je sais pas si ça existe encore, mais je suppose que oui. Mais je trouve que quand même sur une course de montagne, la démarche de se dire je vais placer une voiture là, il y a papa, maman ou ma femme ou machin qui va être là, je coupe la frontale et tout, je me mets un peu hors grille pendant 1 heure, 2 heures et je coupe le parcours. Ah, je trouve ça un petit peu gros quand même. Pareil pour le vélo, hein, de prendre le train, de couper le parcours. Et dans certains cas, se faire couvrir par l'organisateur, c'est parce que ça existe aussi chez nous. Il y a aussi des organisateurs qui couvrent ça. C'est parce qu'ils sont potes et qu'ils payent leur truc depuis longtemps, donc faut couvrir les copains. Et je trouve ça un petit peu gros quand même. Des fois, même à la limite, tiens, ça va peut-être choquer du monde, et tant mieux. Mais je trouve ça plus condamnable que le dopage pharmaceutique. Parce que c'est au-delà de la tricherie, ça devient de la malhonnêteté, en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est de la malhonnêteté, mais enfin tout est malhonnête, de toute façon, même quand tu te dopes, hein, c'est malhonnête.
Oui, bien sûr. Mais il y a une échelle, il y a une gradation dans la malhonnêteté, en fait, et je trouve que
moi, dans le vélo, que ça soit avéré ou pas, mais quand tu te dopes, c'est toi. Enfin, et après, les entraînements que tu peux fournir pour avoir des watts supplémentaires, mais quand tu peux mettre un moteur dans ton vélo, là, pour moi, c'est le seul summum de la triche, quoi. C'est, en plus, tu mets ça sur un vélo, quoi. Enfin, c'est même plus toi qui pédales, quoi. C'est même plus tu fais tes efforts, mais quand même, c'est waouh. Là, ça picote quand même. Là, on est dans le summum de la triche, quoi.
Ah bah c'est pas passé inaperçu, en tout cas les fois où c'est arrivé, que c'est passé en direct à la télé, c'était magnifique, des grands moments de télévision.
Ouais. Ça, après, tu sais, enfin voilà, dans tous les sports, malheureusement, on ne coupe pas, c'est la nature humaine. Je sais plus en quelle année, ça devait être en 2010 peut-être,
Non, je sais pas.
Je sais plus en quelle année il y avait eu une étude de fait qui disait, qui demandait aux Français, est-ce que vous vous doperiez si vous avez la possibilité d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques? Et je crois qu'il devait y avoir plus de 70% de personnes qui avaient répondu oui. Donc, bah,
évidemment.
Donc voilà, après, voilà, c'est les Jeux du cirque. Hein. Enfin, bah.
Bon, on y ça est, dépend quoi, dans quelle discipline, hein, parce que quand tu fais ça en judo ou dans une discipline obscure, médaille d'or, bah, comme tu dis, le lundi tu retournes au boulot, hein. Donc
ouais,
le nombre de médaillés après, qui se retrouvent dans des boulots entre guillemets merdiques, même si dans les faits ça n'existe pas, mais c'est pas du tout glamour, tu vois, alors qu'un Martin Fourcade ou des athlètes vraiment reconnus ont amassé une entre guillemets une fortune intéressante. Les judokas ou en tout, la majorité des judokas, en tout cas, c'est pas le cas du tout, hein. Et plein d'autres sports comme ça, c'est pas la panacée. Tu peux revenir avec ta médaille, mais tu vois, un Raphaël Poiré à l'époque, c'est, je crois qu'il est, il est peut-être revenu entraîneur, mais à une époque, il bossait dans le bâtiment en Norvège. Tu vois, il était dans le BTP, je crois, à une époque.
Ouais. Mais moi, tu vois, ça fait longtemps que j'ai mon avis sur le dopage, je me bats pas avec. Peut-être que pendant ces 20 années où j'ai mis en lumière des athlètes passant des lignes, et peut-être qu'ils étaient chargés comme des mules. Mais moi, je regrette pas de les avoir mis en lumière. Après, c'est eux avec eux-mêmes, tu vois. S'ils sont capables de se regarder dans leur glace, et ben, tant mieux, quoi, tu vois. Après, moi, c'est plus mon problème. De toute façon, je suis pas au courant, donc je fais mon métier, je le vis. Je vis le sport et je mets en valeur les gens. Après, si les gens trichent, qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce qui reste du trail des débuts de l'UTMB de 2003 ou de 2005-2006 quand tu as débuté? Qu'est-ce qui reste de ces épreuves aujourd'hui? On en parlait hier, la marque UTMB s'est associée à Ironman. La marque Ironman en triathlon, pas le personnage.
Non, le Ironman Group, ouais.
Ouais, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il en reste?
Ouais, il reste pas mal de souvenirs et je vois qu'il reste encore, il y a encore beaucoup de gens qui ont envie de découvrir ces courses mythiques. Voilà, puis d'autres sont passés à d'autres sports, d'autres ont fait d'autres choses. Mais voilà, moi, il me reste énormément de très très bons souvenirs sur tout ça. Maintenant, j'espère que ce sport restera tout autant populaire, que les coureurs pourront de tous niveaux pourront toujours partir tous ensemble sur la même ligne, qui pourrait, voilà, qui aura toujours cette envie de se dépasser et de partager, quoi.
Est-ce que les premières versions d'une course qui devient mythique ou les premières épreuves qui contribuent à les légendes d'une pratique sont toujours les meilleures? Est-ce qu'il faut vraiment avoir cette forme de nostalgie en se disant c'était mieux avant? Ou est-ce que
ça fait partie de l'évolution. Ouais, et puis il faut pas aller contre l'évolution. Tu sais, moi à titre personnel, j'ai beaucoup été dans le milieu hip-hop à l'époque, qui est arrivé en France 83, HIP. On dansait en breakait, on allait graffer. Puis après, on mixait, et puis ça finit par le rap. Et le rap a énormément évolué maintenant. Et voilà, il y a du, comme tout, il y a du bon rap et du moins bon rap. Après, c'est chacun son goût, chacun. Mais c'est normal que les choses évoluent, quoi. J'ai des enfants, mes garçons ne pensent pas la même chose que moi, au même âge, quand on avait le même âge, quoi. C'est l'évolution. On peut pas aller contre ça. C'est vrai que ça fait vieux con de dire, ouais, c'était mieux avant. Il y a des choses que j'aimais mieux d'avant. Mais bon, ça reste aussi sympa maintenant, quoi, tu vois.
Et quand tu vois l'étiquetage pop urbaine, ça te fait quoi?
C'est bizarre. Parce que bien sûr.
Pop, bon, c'est quand même la musique populaire. Musique populaire, ça a été popularisé vraiment, comme par hasard, ça a été popularisé par les Beatles. Et quel qu'en soit mes souvenirs, Manchester ou Londres, ça reste quand même des villes. Donc le côté urbain, et puis tous les grands mouvements musicaux sont nés en ville, quels qu'ils soient, à part le blues peut-être qui est né dans un champ de coton. Mais a priori, tout est urbain, quoi. Et puis les studios sont en ville. Et c'est, ça, ça me fait un petit peu tiquer quand même cette appellation pop urbaine, mais je la comprends d'un point de vue marketing, puisqu'il faut rattacher ça à un côté urbain, comme s'il y avait la musique des villes et la musique des campagnes. Mais bon, voilà, ça c'était la fin de la parenthèse. Et le trail aujourd'hui, c'est quoi?
Bah, ça reste pour moi.
C'est quoi aujourd'hui?
C'est du populaire, mais très 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 populaire. On a de tout.
Ouais.
Le trail, c'est la trace, hein, donc voilà, c'est sortir des sentiers. Moi, je trouve que ça a été un tout petit peu trop aseptisé et qu'on prépare un petit peu trop, on marque trop le territoire pour que les gens se perdent pas et ainsi de suite. Mais le trail reste un sport magnifique pour découvrir la France et ses plus beaux endroits, le faire à pied.
Est-ce que ça reste une aventure malgré tout?
Ah bah oui, tout dépend du niveau et de la pratique de chacun. Ça, pour certains, ça reste une grande aventure. Pour d'autres, des vieux briscards qui ont déjà tout fait et trouvent qu'il n'y a plus d'aventure et partent sur d'autres types de challenges. Mais après, tout dépend de ton niveau de pratique, quoi.
Ouais.
Donc ça, pour beaucoup, ça reste encore une grande aventure, hein. C'est pour les personnes qui n'ont pas encore fait, qui n'ont jamais fait la Diagonale des Fous, c'est une sacrée belle aventure. Hein. Il y a plein de choses à gérer avant de voir le stade de la Redoute, hein, avant de voir le stade de la Délivrance.
On en parle souvent de cette Diagonale, parce qu'on parle de l'UTMB, mais la Diagonale, j'ai l'impression que c'est l'autre course encore plus terrifiante quasiment.
Oui, c'est sûr qu'elle fait partie, dans ces formats-là, c'est une des courses les plus dures au monde par le dénivelé, par ses marches hyper cassantes, mais aussi par le fait que la nuit, tu peux arriver à zéro et quelques heures après, il fait 35 degrés. Donc, du coup, les organismes sont très, très éprouvés. Et ça reste une course mythique.
On m'a beaucoup parlé des paysages aussi, notamment... J'en reviens à ma source sur le cirque de Mafate.
Mafate, ouais, bah évidemment.
J'en ai toujours pas revenu d'ailleurs.
Bah non, mais Mafate, enfin, ouais, Mafate, il faut y aller. J'invite tout le monde à aller découvrir l'île intense, quoi. C'est juste sublime. Il y a des endroits merveilleux. J'ai quelques petites images assez superbes dans le film que mon frère a réalisé là-bas, du côté de la Réunion. Mais c'est à découvrir, c'est sûr.
Bien écoute, je vais pouvoir placer la phrase que j'adore placer dans tous les épisodes. Ce que j'aime, c'est quand un invité fait des transitions parfaites. Alors Ludovic Collet, peux-tu me parler de ce projet de documentaire qui te tient tant à cœur?
Ouais, après avoir fait un petit peu tout hein, dans ce métier et ce sport qu'est le trail qui m'a amené à tout. Je n'imaginais pas vivre autant de choses ces 20 dernières années en décidant de consacrer une grande partie de ma vie à animer le trail et l'ultra trail partout en France et dans les dom-toms. C'est vrai que j'ai rencontré des gens assez formidables et puis des opportunités. C'est vrai qu'il y a eu un moment dans ma vie où, comme j'avais brevet d'état d'entraîneur, j'avais fait un petit peu le tour des courses et je commençais peut-être entre guillemets à m'ennuyer un petit peu et j'avais décidé de remonter une team Ludo, de pouvoir entraîner des trailers par rapport à tout ce que j'avais appris moi dans le monde du triathlon, dans la natation, dans les entraîneurs des meilleurs coureurs en ultra trail, donc j'avais appris énormément en discutant avec les élites, les entraîneurs, avec notre grand Vosgien notamment, enfin avec plein de choses qui m'ont fait avancer. Et puis j'avais envie de monter une équipe et du coup j'ai un jeune Marocain que j'ai rencontré sur une course fabuleuse qui est l'UTAT, l'Ultra Trail Atlas Toucan. Et puis un jour sur une course au Festa Trail du côté de Montpellier, j'ai rencontré une athlète. Et puis le feeling est passé, j'ai commencé à l'entraîner et puis j'ai essayé de découvrir un peu qui elle était et sa vie. Et du coup, elle avait une vie assez atypique et elle venait du monde du ping-pong. Elle avait fait partie des meilleures françaises en ping-pong. Elle aurait dû aller aux Jeux, elle n'a pas pu y aller. Elle est franco-cambodgienne. Son père avait fui le Cambodge à l'époque de Pol Pot. Enfin voilà, tout ça a fait que je l'ai emmenée au Cambodge et arrivé au Cambodge quand elle a découvert son deuxième pays, il s'est passé énormément de choses et j'ai voulu raconter cette histoire. Et comme mon frère est réalisateur, voilà, je l'ai mis dans le projet et il m'a dit banco et on s'était dit qu'on allait faire un 26 minutes et puis l'histoire a voulu que cette histoire dure 3 ans de tournage pour faire un 58 minutes maintenant. Il faisait 1h10, mais il a été baissé pour les formats télé. Et voilà, c'est un film qui s'appelle Au-delà du temps, réalisé par Andy Collet, et j'en suis mais très 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 fier. Et je pense que la boucle est bouclée de tout ce que j'aurais pu apporter dans le monde du trail, de l'ultra. Je voulais laisser une trace aussi de ce qui était important pour moi dans l'échange, dans le partage, dans l'humanité. Et je pense que ce film retrace bien tout ça.
Là, tu viens de me dire un truc, bon, encore un truc intéressant, mais tu viens de me dire que le film faisait 1h10 et tu as réduit à 58 minutes. Or, il y a une expression qui dit qu'un projet est terminé non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand on ne peut plus rien enlever. Est-ce que ça a été un crève-cœur d'enlever, de tailler dans ces 12 minutes? Ou est-ce que finalement tu t'es dit, tiens, je les ai peut-être mises pour une mauvaise raison, ou peut-être que...
Non, puis après, moi je suis coproducteur du film, mais mon frère est réalisateur, hein, et c'est lui qui était... moi j'ai eu totalement confiance en lui, et quand il m'a dit, tu sais... Enfin voilà, ouais, il m'a dit, écoute, je pense qu'on peut enlever 8 minutes, en fait, on a enlevé près de 8 minutes. Et là, il m'a dit, mais on n'ira pas plus loin, que ça plaise ou non aux télé ou pas. En tout cas, on n'ira pas plus bas. Mais voilà, là, ça retrace bien et il fallait qu'il soit le film peut-être un peu plus dynamique. On avait tendance peut-être à laisser vivre des images qui n'avaient pas forcément un intérêt, qui étaient très belles, mais qui n'avaient pas forcément un intérêt pour l'histoire. Et tu vois, on vient de faire notre premier festival là il y a 15 jours et on remporte le prix du meilleur documentaire. Donc c'est de très bonne augure.
Bah, j'ai hâte de le voir sur Netflix, alors.
Oui, c'est possible. Il y a des pourparlers avec pas mal de gens, donc on va croiser les doigts et on va voir ce que ça va donner. Mais là, je communiquerai plus quand toutes les inscriptions au festival seront faites. Et puis peut-être après, ça va passer à la télé, donc ça verra bien.
Génial. Pour conclure... Parce que oui. T'as failli laisser la peau quand même dans ces 20 ans de trail, d'animation.
Oui, c'est vrai.
Il me semble même que t'es reparti les deux pieds devant sur une course et que t'as pas pu finir. C'est ça?
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, on a dû m'en donner un bêta bloquant pour éviter que mon cœur explose. Ouais.
Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a amené à ça?
Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Je pense que... Un, le fait de peut-être plus trop faire attention à moi, déjà, à ne plus faire assez de sport alors que j'en commente à longueur de journée. Et puis, le fait que j'anime avec passion, que je suis un bon vivant, que voilà, il y a eu des années où j'animais 4 jours par semaine sur 52 semaines, que j'anime des ultras, beaucoup d'ultras où je passais... 20 heures le samedi, 15 heures ou 16 heures le dimanche au micro, que j'en ai trop fait, que je suis arrivé épuisé sur l'UTMB et que j'ai animé pendant 7 jours et que le 7e jour était de trop, quoi. Et que comme je vis les choses à fond, j'ai accueilli François Denne, c'était la course de l'histoire. J'ai accueilli François Denne, j'ai ouvert les vannes, et puis arrivé Kylian en deuxième place, j'ai ouvert les vannes et après Kylian, je suis parti sur une civière parce que mon cœur était resté sur le mode accélérateur. Et que, ouais, que c'était un peu compliqué, que c'est des pas de très très bons souvenirs de mon métier.
Tout à l'heure, tu m'as dit en rigolant, quand on parlait de cocaïne, tu m'as dit ma propre consommation pour tenir, c'était une blague ou c'est vrai?
Non, bien sûr, c'était une blague. En fait, c'est que si tu veux, j'ai pendant plusieurs années, des gens de TF1 qui venaient courir sur le marathon du Mont-Blanc ou sur ou sur l'UTMB, que je connais bien, et notamment un week-end, un dimanche, sur le, après avoir travaillé sur le 90 du Mont Blanc, le cross et le marathon, les gars sont venus me voir, on a commencé à boire un verre ensemble et on discutait, ils m'ont dit, mais c'est incroyable l'énergie que tu as sur les lignes, ce que tu peux donner aux gens, et t'es tout le temps à fond et tout ça, et il me dit, on peut te poser une question? J'ai dit, ouais, bien sûr et tout. Il me dit, dis-le nous, tu te drogues, forcément, tu prends des, ou de la cocaïne, ou des, et là, j'ai été, moi qui suis un grand fêtard, j'ai été très choqué, tu vois. Parce que je pensais vraiment pas qu'il me poserait cette question-là. Et je l'aurais certifié, hein. J'aurais dit, mais écoutez, si vous voulez, on va faire une prise de sang maintenant. Et vous verrez que je me shoote à la tisane, quoi. Hein. Ou au café, des fois un peu de Genépi. mais jamais de produits illicites, ouais.
Genépi un petit peu plus, parce que dans Ouf, tu expliques quand même que t'es passé par une phase d'alcoolisme mondain, si on peut dire.
J'ai dû arrêter l'alcool pendant plus de 2 ans parce que mon corps suivait plus, quoi. Enfin, parce que tu as toujours un verre à la main. J'ai jamais bu chez moi, j'ai jamais ouvert une bouteille chez moi, j'ai jamais bu en cachette. Mais c'est vrai que quand c'est sur un événement et que t'animes 20 heures et que l'organisateur, de toute façon, quand il t'offre un verre, c'est ou il t'offre une bière ou un café. Et même si t'as bu qu'une bière par heure, et même si t'en as bu que pendant 15 heures, t'en as bu 15. Hein. Ouais. Tu vois, ça va vite. Ça va très très vite. Ou t'en as bu 10. Et moi, je me suis pas forcément rendu compte, mais moi, j'étais toujours dans un milieu festif, donc j'avais tendance à en boire trop, je pense. Mais pourtant, j'étais pas bourré, hein. Je rentrais pas malade ni rien, mais c'est, je pense que tu t'es habitué, quoi, comme tout.
Hier, au téléphone, tu m'as dit, maintenant j'ai la chance de pouvoir choisir mes épreuves. C'est dû à ton ancienneté, ou t'as pris du recul par rapport à tous ces, par rapport à tout ça, justement, et tu t'es dit,
les deux.
Relax. Mmh. C'est les deux?
Les deux, et puis, je pense qu'il y a des jeunes, il faut laisser la place à d'autres aussi, tu vois. Moi, j'ai amené une certaine façon d'animer, je l'ai fait pendant 20 ans, je vais continuer parce que j'aime ça, mais c'est vrai que j'ai plus envie de me démonter la santé, parce que j'ai toujours animé, c'est ma façon d'animer et de donner beaucoup, mais je peux me rendre compte que là, pendant une année là où qui a été difficile pour le monde entier, je me suis aussi retrouvé tout seul, quoi, toi. Il y a peu de gens qui m'ont demandé quand même comment ça se passait pour moi, quoi, comment, si je m'en sortais ou pas, quoi, tu vois. Donc j'étais non essentiel, quoi. Donc je vais faire où je me fais plaisir, j'ai la chance de pouvoir choisir, je vais essayer de rester le plus performant possible et le plus professionnel possible. Mais j'ai aussi envie de tout doucement passer le relais à d'autres.
Ouais.
Tout simplement. Profiter.
Profiter de ta maison dans les Landes.
Ouais, puis c'est beaucoup, c'est un métier magnifique, je regrette aucunement, mais c'est pendant 20 ans, travailler tous les week-ends, c'est-à-dire aller à aucun mariage, aucune communion, aucun anniversaire de pote qui fête ses 30, puis ses 40, puis ses 50, t'as rien vu, quoi. Parce que tous les week-ends, je suis au taf.
Et surtout que toi comme moi, on arrive à un famille, âge où finalement, les potes, on les verra le lundi à l'enterrement, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est plein de choses qu'on fait. Puis là, j'ai eu une année et demie là pour réfléchir. Donc, c'était intéressant. C'était intéressant. Mais voilà, je pense que moi, j'ai aussi fait mon temps. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter. Hein, mais voilà, je pense que je vais en faire moins. Il y a encore des choses qui m'intéressent à faire. Puis on verra comment ça tourne aussi. On verra comment. Si je me fais toujours autant plaisir sur les lignes, est-ce que tout change? Là, j'espère bien que je rattaque dans 15 jours, que les gens vont être très heureux d'être tous ensemble, qu'il va y avoir des sourires et qu'on va arrêter tous de se diviser, quoi. Et puis, j'espère que ça va être très sympa.
Bien. Eh bien, écoute, il est l'heure pour moi de te remercier.
Ouais, merci à toi.
C'est pas un scoop, hein. Je savais que ça allait être super intéressant, super éclairant, donc je suis pas foncièrement étonné. J'allais dire, je tombe pas de ma chaise, mais vu que je suis déjà étalé par terre, je risquais pas de me faire bien mal. Je vais te laisser pour ta minute de solitude, et comme tu n'écoutes pas et que tu ne sais pas de quoi il s'agit, je vais te l'expliquer. Là, je vais débrancher mon micro dans un instant. Et t'as, le nom, c'est une minute, mais en réalité, ça peut être bien plus que ça. Et tu dis ce que tu veux. T'as un espace de liberté, t'es seul face à ton téléphone ou à ton micro, tu dis ce que tu veux, et quand t'en as assez, tu raccroches. Et voilà.
Ok, d'accord, très bien. Cool.
Merci beaucoup, Ludo. Mm-hmm. À très bientôt.
Merci à toi.
Salut, gros bisous, à plus.
Bon, en tout cas, ma finalité, pour ceux qui écouteront ce podcast, continuez à faire du sport tous, continuez à vibrer, continuez à vous amuser, à vous entraîner, à partager, mais voilà, arrêtez de regarder ce que fait l'autre, arrêtons de nous diviser, restons un petit peu plus zen. Et je suis sûr que ça ira beaucoup mieux pour tout le monde. J'espère que ce virus sera derrière nous et j'espère qu'on pourra vivre correctement, le mieux possible en tout cas, tous ensemble. Et puis, juste pour vous dire que le sport reste un très très beau, un bel outil pour se dépasser, pour partager, pour se rencontrer, pour apprendre à se connaître aussi, pour prendre un maximum de confiance. Donc, restons dans les clous, continuons à nous entraîner, et puis j'espère que je vous retrouverai toutes et tous sur différents sports, en tout cas tout au long de l'année. Merci à tous de nous avoir écoutés, et puis à bientôt. Bisous, ciao, ciao.